près de Vermeer, qui se projette complètement sur Vermeer. Proust n'essaye pas de se mettre à la place de Vermeer. C'est Proust qui regarde et qui imagine quelque chose à partir de...
Non, mais surtout, ça permet de comprendre mieux Proust que Vermeer, en fait.
C'est ça. Tandis que là, Bourdieu essaye de faire comprendre Manet.
Voilà.
C'est ça la grande différence, et c'est ça ce très long travail. Il a travaillé combien de temps là-dessus ?
Le premier texte où il y a vraiment cette idée de la révolution symbolique, je crois que c'est l'article qu'il a publié dans une revue assez confidentielle qui sont les cahiers du musée d'art moderne. Donc c'est la fin des années 70, début des années 80. Et dans le premier projet qu'il avait, c'était de traiter en fait Manet, Flaubert et Baudelaire ensemble dans les règles de l'art. C'est pour ça que le livre s'appelle Les règles de l'art. Et d'ailleurs, il y a des morceaux du manuscrit là, que nous avons édité où il y a des reprises des règles de l'art. Donc on voit bien que c'était deux livres jumeaux, ou en tout cas deux parties du même livre, qui ont été peu à peu dissociées, donc au moment où les règles de l'art sont publiées, donc en 92. Et après, donc il a repris le projet pour le relancer sur ses bases autonomes, donc à travers le cours fin des années 90. Et puis le manuscrit, je pense qu'il se situe au milieu des années 90. Il a porté ce sujet une vingtaine d'années, pratiquement.
Vous qui l'avez bien connu tous les deux, est-ce qu'il s'identifiait un peu à Manet ? Est-ce qu'on peut... C'est la fin de sa vie, l'hérésiarque.
C'est un peu ce que
l'hérésiarque Manet.
C'est un peu ce que dit Pascal Casanova dans la postface du livre, bon, tout en prenant évidemment des précautions, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'analogies, cette volonté de révolutionner la sociologie, de changer les catégories de perception du monde social. Mais en même temps, bien sûr, il veut être quand même un savant, il veut être dans l'ordre de la science. Il n'est pas un artiste au sens de quelqu'un qui est dans l'ordre de l'esthétique.
Oui, même si on peut considérer que Bourdieu, c'est une révolution symbolique réussie également.
A réussi, on ne sait pas, parce qu'il y a encore des gens qui le contestent, donc c'est peut-être un peu tôt.
Ça peut être très bien la contestation.
Tandis que Manet, je crois que personne, même dans les gens qui sont conservateurs, personne ne dit que Manet n'est pas un grand peintre. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais entendu ça. Tandis qu'il y a encore des gens qui disent que Bourdieu n'est pas le grand sociologue que certains prétendent. Donc c'est encore une révolution en cours.
Ça vient quand même.
Oui, ça vient, mais c'est encore en cours.
Du jour où Manet fait son coup, plus personne ne peut dire qui est peintre.
Pierre Bourdieu, 1988.
Et autrement dit, on passe du nomos à l'anomie, c'est-à-dire à un univers dans lequel tout le monde est légitimé à lutter à propos de la légitimité.
Restons toujours sur cette révolution symbolique. Dans quelle conditions se produit cette révolution symbolique dans le cas de Manet, et il y a les conditions historiques. Manet, on l'a déjà évoqué un peu, il est dans son histoire, il est dans son présent, il est lié aussi à l'histoire de la peinture, on vient de le dire aussi, la peinture ça s'articule d'un peintre à l'autre, on voit bien Manet qui détestait Courbet, donc on se dit qu'il peint par rapport à très souvent, donc il est inscrit dans cette histoire-là aussi. Il a sa propre histoire, vous l'avez évoqué, sa condition sociale, il y a peut-être des affects personnels, des blessures, des ruptures, que sais-je, qui vont l'inspirer, qui vont lui faire faire telle ou telle chose plus qu'une autre, etc. Très souvent, les artistes sont dans une certaine apesanteur sociologique, hein. C'est des gens qui n'ont pas les nécessités des autres catégories. Mais là aussi, ça a une importance, les conditions matérielles de Manet, l'influence de son marchand, etc. Il y a encore d'autres raisons, il y a d'autres causes qui vont faire que, qui vont voir se dérouler cette révolution symbolique. Patrick Champagne.
Disons qu'il va appliquer à Manet ce qu'il a déjà appliqué. Enfin, il y avait un article très important qu'il a fait qui s'intitule « L'illusion biographique ». Et lui-même, dans des textes, a essayé de faire la sociologie de Bourdieu. Enfin, et il a fait la même chose pour Manet. C'est-à-dire que, dans une biographie classique, on raconte l'enfance, l'adolescence, le développement de l'individu en question, etc. C'est-à-dire on commence par l'individu dont on fait la biographie. Bourdieu, à la fois pour lui-même et pour Manet, il utilise une autre technique qui consiste d'abord à faire un état du champ dans lequel un individu va arriver. C'est-à-dire quel est l'état de la peinture quand naît Manet. Bon, il explique, c'est une peinture, il y a la peinture pompier, c'est une peinture fortement institutionnalisée, une peinture où l'État est omniprésent, etc. Et ensuite, il va s'interroger sur quelles sont les propriétés que devait avoir Manet quand il va rentrer dans cet espace qui est structuré d'une certaine manière pour opérer les bouleversements qu'il va opérer. Donc c'est un peu en deux temps. La première année du cours est fortement consacrée à faire une espèce de bilan d'état de la situation, et notamment d'analyser assez longuement ce que c'est que la peinture pompier. Et la deuxième année, il va progressivement analyser tout le capital social, culturel, économique que possédait Manet, qui avait une culture énorme,